Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode et même une nouvelle saison parce qu'on a décidé ça, hein, Pascal. Nouvelle saison d'une tasse de tech, la balado techno de référence pour tout le Québec et même au-delà parce qu'on a des gens qui nous écoutent d'Europe et d'Afrique même. Donc on a des gens partout sur la planète qui nous écoutent dans le métavers. Quoique, c'est discutable parce que ma théorie, c'est que le métavers maintenant est mort, on n'entend plus parler.
Oui.
Il y a quelqu'un disait que c'était pas un hype. J'ai dit une nouvelle pour vous. Parce que c'était peut-être ça, finalement. On va avoir l'occasion d'en parler parce que dans les prochaines semaines, on aura plein de nouveaux invités dont on parlera. Mais nos commanditaires, eux, restent les mêmes. Pascal, je ne sais pas si tu veux.
Exactement. Merci à TELUS. Merci à Plan Hub. Merci à Jura. D'ailleurs, je te vois en train de prendre un café. Et là, c'est ça. Est-ce qu'on le dit que tu es en San Francisco pour le Google I.O.?
Ben oui, je suis à San Francisco. Voilà. Merci. Je suis à San Francisco pour Google I.O., donc la conférence de Google. C'est l'édition spéciale. On va parler que de ça cette semaine, à part quelques petites actualités choc, bien sûr. Mais non, j'ai pas la machine Jura que j'aimerais avoir pour ma
C'est ça, t'as pas ta machine Jura pour te faire un café à volonté, à la pression d'un seul bouton, avoir la boisson caféinée ou pas de ton choix, avec une quantité précise de lait, de café et d'eau. Un seul bouton, là, t'as pas à faire ton lait, t'as pas à faire mousser le lait, mélanger et tout. Un seul bouton, le lait, le café et tout. T'as un affichage avec un écran qui permet de choisir ta boisson précisément. Tu as un dispositif pour nettoyer le lait. Le dispositif de lait, normalement, c'est un peu cochon, nettoyer ça. Il faut utiliser un chiffon et tout. Tu as un petit dispositif, tu mets des enzymes là-dedans, ça nettoie super bien. Vraiment, vraiment le fun. Puis tu as une petite chute à l'arrière de la machine si tu veux mettre du café moulu. Ça prend du café en grain et ça le transforme en délicieuse boisson. Mais si jamais tu veux utiliser du café déjà moulu, tu peux le faire. C'est la Jura E8. Plus on l'utilise, plus on l'aime. Je serais triste presque de voyager. C'est pas vrai. J'aimerais ça voyager. Je m'ennuierais de ma machine à café.
Surtout, j'ai découvert un lait d'avoine. J'utilise en remplacement du lait, puisque c'est une question de boire trop de lait, là, mais ce qui est excellent, qui va super avec la machine en plus, parce qu'il mousse parfait. Il goûte pas trop les céréales, mais malheureusement, je suis très loin. En fait, je suis pas à San Francisco comme tel, je suis à Mountain View, où se trouve le siège social de Google, pour parler de plein de choses mobiles, n'est-ce pas, qui fait que je peux saluer en même temps nos partenaires Plan Hub et TELUS, qui complètent notre trio de partenaires. C'est la saison 8. J'hésitais parce que je savais pas trop si on allait faire prolonger la 7 ou partir la 8, mais on part la 8, hein. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'avec le printemps, c'est le renouveau, n'est-ce pas? C'est la renaissance. Partons en 9.
Quelle température fait-il à Mountain View?
C'est exactement la même chose qu'à Montréal. Là, il va faire beau aujourd'hui, mais hier, c'était nuageux, 15 degrés.
Donc, pas mal. Ici, il fait frisquet un peu. Il fait sonner, mais frisquet. Est-ce qu'on commence? On va parler d'AI, d'intelligence artificielle, parce qu'à Google, on a fait beaucoup, beaucoup d'annonces pour tenter, je pense, de pallier le petit choc de Bing et de ChatGPT qui est intégré dans les produits de Microsoft. J'aimerais ça te parler d'une application québécoise qui utilise l'intelligence artificielle, Parky.ai. Comme Parky, le film, mais Parky pour parking avec un Y. Ceux qui sont âgés savent la référence du film, la série de films Parky. C'est une application qui sert, et là je trouve ça fantastique d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça, qui sert à déchiffrer les panneaux de stationnement à Montréal. Ça, c'est hilarant. Prends ta photo.
Ça indique bien des choses quand ça prend une intelligence artificielle pour lire les pancartes sur la barre d'une rue. Ouais, effectivement.
Exactement. Et ça analyse les différents panneaux et ça dit oui, tu peux te stationner ici ou non, tu ne peux pas te stationner ici. Pour l'instant, c'est que pour Apple, c'est gratuit. Les ingénieurs travaillent sur une version Android. J'ai demandé si ça fonctionnait dans d'autres villes québécoises. Et comme c'est de l'intelligence artificielle, on m'a répondu qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas partout au Québec, même si on a fait la formation et l'assurance qualité sur des panneaux, surtout à Montréal et en région de Montréal. Donc, on parle de Laval, Brossard, Montréal-Est, Longueuil, Dorval et compagnie. Mais comme les panneaux de signalisation au Québec sont assez standards, j'assume que... Bon, j'imagine qu'ils sont moins complexes ailleurs.
Il y en a moins sur un seul poteau. Ben oui, parce que souvent, il y a 3-4 affiches une après l'autre qui sont parfois contradictoires, pas toujours complémentaires, des fois mutuellement exclusives.
Voilà.
et je vais pousser une pointe parce que quand je restais, quand je demeurais près de l'Université de Montréal, un matin, ils ont mis plein de petits collants sur les affiches pour reculer d'une heure la vie de non-stationnement. Évidemment, dans la minute passée cette heure-là, parce que personne n'avait regardé la pancarte, cette pancarte n'avait pas changé. Mmh. Évidemment, le petit monsieur avec ses contraventions avait mis un paquet de billets sur genre les 300 voitures stationnées sur la rue, qui était la rue Édouard Montpetit. C'est pas fin, ça. Mais c'est clairement pas pour passer la machine qui nettoie les trottoirs, c'est vraiment juste pour faire de l'argent qu'ils font des pancartes comme ça des fois. On est éditorial de la semaine.
AI sur Apple seulement pour l'instant, bientôt sur Android, bientôt dans votre téléphone Pixel. Puis toi, tu voulais aussi parler d'un autre truc qui est pour Apple.
Ben oui, ben effectivement, il y a eu une petite nouvelle, et je pense que c'est la stratégie d'Apple d'essayer de noyer un peu les nouvelles de ses concurrents quand ils font des conférences, parce que la veille des grandes conférences de Google, Microsoft et les autres, il y a toujours une petite nouvelle d'Apple qui se profile.
Mystérieusement.
Ouais, et ce coup-ci, ben, on a présenté deux versions pour iPad, deux applications de pointe très populaires sur Mac, Final Cut Pro et Logic Pro, ce qui permet toujours de me rappeler à quel point je n'utilise pas ces applications, parce que ce sont des applications plus pour des professionnels vraiment de l'audiovisuel. Oui. Dans le cas de Final Cut Pro, c'est de l'édition vidéo de pointe. C'est comme un iMovie sur les stéroïdes, pour ceux qui sont le plus grand public. Et Logic Pro, c'est pour créer de la musique, pour produire de la musique. Vraiment, c'est un mini-studio qui tient dans un Mac jusqu'ici. Et maintenant, sur iPad, c'est une semi-petite grosse nouvelle parce que ce sont des outils qui sont très appréciés de gens, de créateurs de contenu qui préfèrent les produits Apple. Là, par exemple, Premier Element et toutes ces choses-là chez Adobe, entre autres. Il y a DaVinci aussi qui fait beaucoup de avec son application Resolve, qui fait beaucoup de belles choses et qui est très populaire. Donc, Apple sentait le besoin de revenir avec une offre tactile, disons-le comme ça, parce qu'on a revu les deux applications essentiellement pour les rendre plus fonctionnelles à l'écran de iPad Pro. J'insiste sur le Pro parce que ça prend un appareil assez puissant pour que ça fonctionne. Mais la démonstration est assez éloquente en termes d'interface. C'est vraiment bien soigné. On peut évidemment, même sur son iPad, importer des vidéos, des clips, des photos, des clips, des trames sonores pour faire du montage vidéo de pointe avec des effets, des filtres, tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment assez avancé. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qu'on peut faire parce que c'est comparable à ce qu'on fait sur un Mac déjà, mais c'est la façon dont on peut interagir avec les éléments à l'écran avec ses doigts, n'est-ce pas? Et aussi avec le stylet, le pencil, qui permet de faire de l'édition de précision d'une façon qu'on penserait pas, parce que quand on met un doigt, on le sait, quand on utilise une tablette couramment, c'est pas toujours l'affaire la plus précise d'y aller directement avec le doigt à l'écran. Mais dans ce cas-ci, on a trouvé, entre autres choses, on a une espèce de molette qui apparaît sur le côté de l'écran qui permet de, juste en pivotant les doigts, d'ajuster vraiment un degré de détail qui est plus précis que ce que je m'attendais à voir, honnêtement. Donc, deux applications qui sont intéressantes pour les amateurs. Logic Pro, c'est plus de la musique. On a revu aussi la façon dont on utilise les plugins, les logiciels, pour les rendre visuels. Donc, on fait du drag and drop, du glisser-déposer. On peut faire de la prévisualisation ou en tout cas de la pré-écoute parce que c'est du traitement musical, sonore. Et c'est assez intéressant. Et la grosse affaire, c'est qu'au lieu d'acheter les logiciels pour quelques centaines de dollars pièce, Apple les offre par abonnement à 5 dollars par mois. Donc, les gens qui sont curieux, qui pensent qu'ils peuvent devenir soit créateurs de contenu, parce qu'on s'adresse à une clientèle plus jeune, plus numérique avec ces applications-là. Donc, les gens qui veulent devenir YouTubers, des choses comme ça, peuvent et qui veulent justement bidouiller, savoir s'ils sont capables de le faire, ben ils ont un accès plus facile parce que 5 dollars par mois, ben on paye 5 $ puis pendant un mois, on peut l'essayer. Et si ça nous intéresse, ensuite, c'est 49 $ par année. Donc, c'est une façon simple et pas trop chère d'avoir un premier contact avec ces applications-là. Évidemment, vous pouvez aussi essayer iMovie, qui est gratuit, qui permet de faire de l'édition très légère si vous êtes plus, si vous le faites plus pour par loisir, mais c'est une façon, évidemment, de sauver des sous là aussi. Mais
on s'entend que Final Cut et Logic Pro, c'est des applications professionnelles avec lesquelles on peut
monter dans le nom,
des films
c'est
en salle.
Exactement.
C'est des trucs très, très costauds. Moi, ça me fait réaliser à quel point le iPad est une machine puissante. Et je me demande comment ça va s'intégrer dans le workflow des créateurs quand tu es habitué de travailler avec un clavier, quand tu es habitué de travailler avec... tu peux peut-être faire une préédition. J'imagine que ça va devenir très pratique pour les créateurs sur la route. Dans ta voiture, tu peux plus rapidement peut-être avec ton iPad faire un pré-montage, publier quelque chose sur les réseaux sociaux avec des outils professionnels de montage. Je pense que les gens réalisent pas tout ce qu'on peut faire avec un logiciel professionnel. Et tu as mentionné DaVinci Resolve. Ceux qui veulent faire du montage vidéo, c'est une application gratuite. Vraiment, c'est incroyable. Il semble que de plus en plus de créateurs arrêtent de payer des licences pour les logiciels de Sony ou les logiciels comme pour faire avec DaVinci Resolve. C'est aussi une application professionnelle qui permet de monter des films en salle. Je l'utilise et je suis émerveillé par ce que ça peut faire.
Oui, oui, ben on s'en rend pas compte, mais la production, vous savez, les gens qu'on a, sur Instagram, les influenceurs, ces choses-là, les créateurs de contenu vraiment ont des outils assez poussés. Là, c'est souvent fait, c'est très soigné, quoi qu'on pense de ce créneau-là. Mm-hmm. Il y a quand même pas, généralement beaucoup de travail derrière et ces applications-là visent cette clientèle-là. Donc, pour les gens qui, plus les jeunes, probablement qui rêvent de faire carrière dans ce genre de profession-là, effectivement, il existe des outils. Et ils sont plutôt chouettes, en fait. On fait vraiment le pont entre les outils professionnels et les outils grand public avec ces applications-là qui sont plus sur iPad. Ça prend d'ailleurs un iPad de processeur M1 ou plus, donc vraiment un iPad Pro assez récent, ou dans le cas de Logic Pro, c'est le processeur A11. Donc, c'est vraiment des iPads des deux, trois dernières générations qui sont conçus ou qui fonctionnent, qui sont assez puissants, en fait, pour ces applications. Donc, c'est un petit détail.
Tu es au Google I.O. Moi, j'ai pris en note de Montréal. J'ai regardé ce qui se passait, les nouvelles qui ressortaient. Je ne sais pas si tu veux commenter ce que moi, j'ai remarqué. Moi, j'ai vu que Google allait faire une mise à jour majeure de Find Your Device, trouver votre appareil, l'application qui permet de repérer, retrouver son téléphone, retrouver ses écouteurs, retrouver des trucs comme ça, y compris les traceurs de Tile, entre autres, et les AirTags. Ça, je trouve ça fantastique. Qu'enfin, on puisse voir dans un appareil Android facilement qu'un AirTag nous suit. Il semble qu'Apple et Google travaillent ensemble pour éviter justement que ça serve à pister les gens à leur insu. Ouais. Je trouve ça noble parce que Apple, en lançant le AirTag sans compatibilité avec Android, a créé un outil de surveillance massif sans possibilité de se défendre si tu avais un appareil Android. Je trouvais ça terrifiant que personne n'ait relevé ça. On a aussi mentionné l'application Home, l'application qui gère sa domotique. Ça coïncide avec le lancement de la tablette de Google dont on va parler dans quelques minutes, qui va devenir un outil pour gérer toute sa domotique, allumer ses lumières et tout. Ça va être lancé aujourd'hui. Donc, en théorie, là, j'attends la mise à jour. J'espérais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Mais ceux qui ont de la domotique à gérer, ça va être beaucoup plus facile de le faire avec la nouvelle application Home de Google. Il y a aussi, on a dévoilé un nouveau truc qui s'appelle Magic Editor dans les photos de Google, l'éditeur de photos Google, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour faire des éditions de ces photos, mais des mises à jour, des modifications majeures. Donc, on parle de déplacer le sujet, on parle de remplacer des choses, de créer des éléments dans sa photo.
Ben, l'exemple donné sur scène, c'était, par exemple, tu prends une photo de ton enfant qui a des ballons dans les mains, mais c'est mal cadré, donc les ballons sont coupés, et l'éditeur magique permet de déplacer le sujet dans l'image, dans le paysage, et automatiquement complète les ballons pour donner l'impression que, évidemment, le sujet était bien cadré et qu'il manque pas d'un morceau du sujet. Donc, c'est assez intéressant. Ça pousse. Il y avait, on connaissait déjà l'effaceur magique, là, qui était depuis deux ans, là, très populaire du côté des pixels. Ça, c'est comme la version suivante de cette technologie-là, qui est quand même assez, évidemment, reste à voir, parce que là, c'est des cas idéaux qui nous ont été présentés, mais j'imagine que au quotidien, ça va finir par devenir assez puissant comme outil de retouche photo. Ben ça soulève la question de à quel point nos souvenirs sont fidèles à la réalité, parce que là, on peut truquer nos photos pour tricher nos souvenirs. Donc, je sais pas.
Oui. L'efface magique enlevait des choses. Avec le Magic Editor, on va pouvoir ajouter des choses et même déplacer des éléments dans sa photo. Bien hâte de voir ça. Ça va être déployé dans l'année. Et ça, c'est l'affaire qui est particulière. Ce que j'ai mentionné, le Find Your Device, la mise à jour, ça va être dans l'année, dans bientôt. L'application Home, c'est dès maintenant. Le Magic Editor, ça s'en vient. Et on a aussi fait une démonstration du bloc-notes, le Project Tailwind. Et ça, je suis bien curieux. Ça cible d'abord, je crois, les étudiants, mais ça permet de rassembler les notes. Donc, il y a OneNote du côté Microsoft. On va avoir un Project Tailwind, un bloc-notes qui va améliorer tes notes, permettre de les rassembler, permettre de créer des questionnaires à partir de tes notes pour tester tes connaissances. Très, très, très curieux de voir ça.
Ça a été présenté un peu pêle-mêle parce que ça fait partie de le Project Tailwind d'outils en mode bêta. Qui font partie de quelque chose qui s'appelle le nouveau lab. Ils ont présenté vraiment un service sur évitation qui présente tous les outils bêta basés sur l'intelligence artificielle générative que Google a présenté beaucoup hier sur scène, là, et qui comprennent Tailwind, qui a été présenté comme un outil, par exemple, pour un enseignant ou pour un élève en classe qui veulent condenser, créer un petit résumé d'une information très, très touffue. et qu'il fait par intelligence artificielle. Donc, on dit, voici tout ce que j'ai pris comme note à l'école aujourd'hui, et on a droit à un résumé automatique. Donc, des outils de génération comme ça et de résumé basés sur du contenu fermé, parce que avec ChatGPT, on a vu que la puissance de l'information d'Internet au complet permettait de faire des choses assez assez spectaculaires, mais des fois, on peut peut-être juste réserver cet outil-là à un contenu très défini. Et c'est ce que Project Tailwind présente en version outil académique, disons-le comme ça. Il y avait plein d'affaires dans les labs, ça va être intéressant de suivre ça. C'est sur invitation, donc c'est pas tout le monde qui va y avoir accès. Mais il y a Project Tailwind, il y a aussi des présentations à venir de ce que pourrait être Google Search, le moteur de recherche de Google. Parce que là, on en parle beaucoup, et on va en parler plus tard tantôt, mais l'intelligence artificielle, oui. J'oserais dire fait frémir bien des gens chez Google. D'ailleurs, j'en ai glissé un mot. J'ai fait un papier qui résumait la conférence là, dans le Devoir mercredi. Vous irez voir ça si vous voulez vraiment savoir dans le détail qu'est-ce qui fait bouger les gens chez Google en ce moment. C'est qu'on s'inquiète sur le modèle d'affaires du moteur de recherche qui est le gros de la business chez Google. Parce que tout d'un coup, quand on a des résumés de la recherche plutôt qu'une liste de sites web, où est-ce qu'on met la publicité? Où est-ce qu'on fait de l'argent? Toute l'économie du web qui repose sur le clic et la génération de clics est un petit peu menacé par ces outils qui font la job à notre place, dans le fond, qui nécessitent plus d'aller quelque part. Et c'est intéressant de voir sur scène les gens de Google dire « Ah non, quand les gens revoient la publicité dans leurs résultats de recherche, ils aiment ça parce que ça leur permet de prendre des bonnes décisions. » Comme je pense que ça, c'est dans votre tête, les amis. Je pense pas que dans la vraie vie, les gens aiment la publicité qui est insérée. Pas toujours de façon très évidente et très, très, très claire dans les résultats de recherche, mais ça va être intéressant de voir l'évolution de ça, effectivement. Mais tout ce qui est réflexion sur ces choses-là, ça fait partie des labs. Il y avait une version de Google Street View aussi, en fait, de Google Maps, qui s'appelait une vue immersive de l'itinéraire. Donc, on peut prévisualiser, comme si on était un petit oiseau, le chemin qu'on trace pour se rendre quelque part, mais dans les images réelles en trois dimensions, très immersives, du vrai monde. Donc, c'est plus juste des traces vectorielles, c'est vraiment un peu Google Street View, mais en meilleure qualité, en trois dimensions, donc vraiment un environnement virtuel. Et là, on dit, ben, je vais me rendre, par exemple, au centre-ville de Montréal. Là, on voit le tracé avec le pont et ainsi de suite. Et on peut le prévisualiser sur son appareil. Ça va s'en venir aussi. Pour l'instant, c'est pas à Montréal. C'est dans 15 villes essentiellement concentrées aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Mais ça s'en vient bientôt, ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient présentées un petit peu en rafale comme ça, justement, parce qu'il y avait beaucoup de stock pour les labs auxquels vous pouvez accéder en googlant Google Labs. Je vais ajouter un élément d'information sur Android 14, parce qu'on a entendu parler de quelques nouveautés qui s'en viennent du côté d'Android, parce qu'évidemment, il y a été question des pixels qui ont été présentés, trois nouveaux appareils, mais avant ça, on a parlé un peu du logiciel d'Android, de ce qui est possible de faire, et encore là, comme tu disais tantôt, ce sont des mises à jour qui ont été annoncées, qui s'en viennent dans les prochains mois, et c'est un peu drôle, parce qu'il y a, il y a eu peut-être trois niveaux de présentation de nouveautés liées au système d'exploitation Android. Et il y en a qui s'en viennent dans un mois, il y en a qui s'en viennent plus tard cet été, et il y en a qui s'en viennent plus tard cette année avec Android 14. Donc, on a vraiment un peu brisé le modèle de mise à niveau classique qui devrait être comme une fois par année. Et tout le monde est content.
Je pense qu'ils voulaient en dévoiler le plus possible aujourd'hui pour montrer qu'ils sont dans la course, pour montrer qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'on s'entend que...
Effectivement, il n'y a pas été question d'un Pixel 8. L'année passée, dans les années dernières, on levait un petit peu le voile sur quelque chose qu'on ne voulait pas trop montrer, mais qu'on voulait dire « on a d'autres choses qui s'en viennent ». Là, on n'a vraiment pas du tout parlé des prochaines générations de pixels, mais on a présenté quelques nouveautés qui sont basées surtout sur, parce qu'évidemment, le thème dominant, c'était l'intelligence artificielle générative. Donc, on a inséré un petit peu d'IA dans l'affichage de l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage des téléphones Android.
Oui.
On a joué sur les mots et on a passé 45 minutes à nous présenter comment on va pouvoir bientôt utiliser les images dans notre Google Photo, dans notre Phototech, et modifier les polices d'affichage de l'horloge, de l'heure sur son téléphone, et même personnaliser le texte et ces choses-là qui s'affichent sur l'écran verrouillé, ainsi que les raccourcis, parce que souvent, les raccourcis dans l'écran d'accueil, c'est la caméra et la lampe de poche ou des trucs comme ça. Là, on va pouvoir mettre les raccourcis de son choix. On offre un niveau de personnalisation. Si on enlève le fla-fla, là, si on enlève tout le hype autour de l'intelligence artificielle, on offre une plus grande personnalisation de l'affichage de l'écran d'accueil. Il y a deux choses qui sont cocasses, parce qu'il y a trois différentes choses qu'on pourra faire à partir de maintenant. On pourra changer, évidemment, la police de l'horloge, tout ça. On pourrait aussi changer l'image derrière et créer trois nouvelles façons de personnaliser son affichage. Une, c'est en utilisant des emojis. Donc, on va pouvoir créer une espèce de papier peint à base d'emojis qu'on choisit nous-mêmes et qui se mettent en place tout seul. Ou on peut utiliser une fonction aléatoire. On appuie sur un bouton et il nous bâtit une image, un fond d'écran à partir d'emojis. sais pas qui ça va exciter, mais si
écoute,
ça va être
l'enfant de 13 ans en moi, je peux plus.
Voilà. Il y a un mode, il y a un mode cinématique aussi qui va prendre une photo que vous avez de quelqu'un ou d'une personne ou d'un animal de compagnie, donc c'est d'un être vivant sur un arrière-plan assez facile à comprendre. Et là, l'outil, votre Android va décomposer l'image pour créer un effet de mouvement avec l'arrière-plan pour animer un petit peu le fond d'écran et le rendre. Mmh. On le voyait un petit peu sur les appareils il y a quelques années où quand on bougeait son appareil, l'image se déplaçait. Oui. Pour une espèce d'effet de perspective, pardon. Ben, ça va être plus avancé en version cinématique, comme on l'appelle chez Google. Et il y a, en dernier point, les papiers peints d'intelligence artificielle générative. Les gens qui connaissent Midjourney ou DALL-E savent un peu déjà de quoi ça va ressembler, parce que ce qu'on va offrir aux utilisateurs, c'est sur l'appareil de composer une phrase avec des choses pré-réglées. Genre, je veux un paysage de ville sur le bord de la mer, style expressionniste. Et là, il génère une image de nulle part. Basé sur cette combinaison d'éléments-là qui va permettre de créer des images à partir de rien. Donc, c'est vraiment génératif dans le sens où c'est pas une photo de San Francisco qui va être un petit peu recolorée. C'est vraiment produit à partir d'une banque d'images que l'intelligence artificielle retraite et recompose et ensuite reproduit. Donc, ce qu'on dit chez Google, c'est que ça va être la façon la plus évidente de personnaliser tous les téléphones Android qui existent sur la planète. On dit qu'il y a 3 milliards d'utilisateurs actifs d'Android dans le monde. L'affaire, c'est que probablement 80% de ces gens-là ont des téléphones Android qui sont pas nécessairement des téléphones intelligents très modernes, donc ils seront pas compatibles. Et sérieusement, si je me fie juste à mon expérience personnelle, il y a beaucoup d'appareils Android qui sont peut-être sur Android 3, 4, 5, là, des vieilles versions d'Android qui sont bloquées de toute façon avec du vieux stock, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, évidemment à l'extérieur d'Amérique du Nord, qui ont des téléphones plus âgés et surtout qui ont des téléphones pas chers qui s'adonnent à être animés par Android. Ces gens-là, ils n'auront pas le droit, mais à partir de cet été, ceux qui ont un téléphone plus récent, nécessairement un Pixel, ça va être idéal, mais peut-être aussi d'une autre marque, pourront avoir ces présentations-là. On a aussi présenté un niveau plus avancé, et ça va venir d'Android 14, un niveau plus avancé d'harmonisation des couleurs, je vais dire ça comme ça, parce qu'on peut, avec les téléphones Android actuels, avec la plus récente version d'Android, donc Android 13, choisir d'utiliser la couleur dominante dans les images, dans l'image de papier peint pour créer les icônes des applications, les couleurs des menus, ces choses-là. Et là, on pourrait aller un petit peu plus loin, parce qu'on va vraiment pouvoir créer un affichage monochrome, pas nécessairement blanc, noir et blanc, mais vraiment monochrome. Donc, une seule couleur dominante à la grandeur du système. Donc, ça va être une façon de rendre des choses plus personnalisées. Mais ça va être pour Android 14, donc ça va être probablement cet automne qu'on verra ça. On aura l'occasion d'en reparler, sans doute, là.
Quand ce sera dévoilé. Moi, j'ai bien hâte de voir combien de fois on va se servir de ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être une belle démo. On va ouvrir notre téléphone. On va installer Android 14. On va le faire une fois. On va faire moins.
Ouais. C'est ça qui est ça. Ben oui.
Et on va revenir à l'ancien fond d'écran qui sont préconçus, qui sont habituellement très, très jolis. Moi, j'obsède pas sur mes fonds d'écran. Je sais pas pour toi, mais.
J'aime beaucoup mettre des photos de la famille, des voyages, des choses comme ça, mais j'avoue que j'en ferai pas une obsession non plus. Puis écoute, je ne sais pas à quel point ils ont fait un focus group avec des gens qui représentent l'acheteur moyen pour se dire que c'était une des priorités à faire, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui était facile à présenter dans un contexte de conférence pour les développeurs, de dire voici à quel point vous pourriez, vous aussi, dans vos applications, créer des éléments de design, d'interface qui sont personnalisables facilement basés sur des éléments système, couleur générale, couleur dominante, style d'icône, génération d'image. Il y a des petits mouvements qui s'en viennent de ce côté-là. D'ailleurs, parlant d'intelligence générative, on va en parler dans un instant parce qu'on va revenir sur les éléments plus d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Je vais vous donner des indices de ce dont on va parler. Gecko, Otter, Bison et Unicorn. Voilà quatre noms de ce qui a été présenté par, entre autres, Sundar Pichai sur scène hier. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms pour beaucoup, beaucoup de systèmes. Et après ça, tu l'as présenté, on va aussi revenir sur les trois nouveaux appareils, Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablette. On prend une petite pause, je prends une gorgée de café, bougez pas, on revient tout de suite avec tout ça à une tasse de tech.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Bienvenue à une tasse de tech. On tombe pile poil pour parler d'intelligence artificielle. En fait, c'est un bon retour parce qu'on va en parler beaucoup dans les prochains mois. Et on commence fort, nous, avec notre saison 8, n'est-ce pas? Puisqu'on est à... Ben, moi, je suis à Mountain View. J'aimerais vous dire que je suis à San Francisco, mais c'est tellement pas la même chose. Mountain View, c'est un peu le boulevard Saint-Martin de San Francisco. C'est vraiment un long boulevard de commerce. Et c'est la partie, genre, vieux commerce de voitures usagées. Là. Ça fait dur ici à Mountain View, honnêtement.
Le boulevard Taschereau.
Sur la rive sud ou Saint-Martin à Laval, mais aussi c'est essentiellement un gros boulevard de commerce. Et surtout ici laissé à l'abandon parce que c'est pas la partie la plus excitante de la vallée, de la Silicon Valley. Mais c'est ici où se trouve l'énorme campus de Google, tout près d'un amphithéâtre qui s'appelle le Shoreline Amphitheater, qui est assez cool, qui est très grand, qui est extérieur. Donc la conférence d'hier, c'est à l'extérieur, sous un ciel nuageux. Menaçant de pluie, mais qui finalement n'a pas plu. Fait que c'était pas super. Et il y a été question beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, on va un peu démêler ça, Pascal, si tu veux, parce que c'est du lourd, là. C'est vraiment beaucoup de choses présentées pour essentiellement dire aux gens, nous sommes en avance sur tout le monde. Google expliquait l'autre jour qu'ils ont commencé à faire de la recherche en intelligence artificielle quelque part autour de 2012. Donc, ça fait un petit peu plus que 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont été, avec notamment leur filiale anglaise DeepMind, à l'avant-garde de bien des choses, des modèles de reconnaissance visuelle, de reconnaissance d'images et de textes. Ils ont, évidemment, vous le savez, là, été ébranlés par l'existence de ChatGPT depuis quelques mois, où là, OpenAI a vraiment commencé à rentrer dans le gras de ces systèmes-là. C'est compliqué parce que OpenAI... perd beaucoup d'argent avec ChatGPT. Il était question de 500 millions de dollars par année. Les coûts d'opération de ça sont énormes. Et pour l'instant, on n'a aucune façon de monétiser autre que par des abonnements qui sont pas très nombreux. Les gens peuvent pas tous payer 20 dollars par mois. Et chez Google, on voit son modèle d'affaires basé sur la publicité être menacé par ces applications-là. Et on veut surtout effectuer une transition en douceur pour garder quand même une génération de revenus conséquents, mais appliquer ces nouveaux systèmes-là. Et ce qui a été présenté hier, c'est en gros, là, c'est un gros système qui anime tous les autres services qui vont être présentés au fil des prochaines semaines par Google, qui s'appelle Palm, P-A-L-M, donc Palm 2, c'est la deuxième génération de ce système-là, qui permet de faire n'importe quoi. Et ce que Google voulait, en fait, c'est un système qui était qui pouvait avoir différentes tailles, différentes capacités, et qui s'installait sur soit un super gros parc de serveurs informatiques extrêmement puissants, comme ils ont du côté de Google Cloud, ou soit même sur un téléphone, parce que ce qu'on a vu, c'est que il y a beaucoup de petits systèmes d'intelligence artificielle générative qui s'installent sur, par exemple, un Samsung Galaxy S23, donc un téléphone de cette année de Samsung. Et on a présenté donc Palm 2, qui existe en quatre saveurs, en fait. du plus petit, Gecko, qui semble-t-il fonctionnerait sur un téléphone intelligent, à la version plus grosse, Unicorn, donc licorne, qui, elle, est vraiment la version pleinement déployé de ce système-là, sur lequel repose entre autres Bard. Et c'est là où ça va être le fun, parce qu'il y a beaucoup de noms pour leur système.
Oui.
Bard, c'est un projet conjoint entre les chercheurs d'intelligence artificielle chez Google et les gens qui travaillent sur l'assistant Google. L'assistant, c'est cet assistant numérique vocal qu'on a sur nos téléphones Android, qu'on a dans les enceintes connectées de Nest, et qui sont un petit peu partout là, dans les applications de Google. Et là, Bard est un peu... Ils veulent pas le dire, mais on peut présumer que c'est peut-être le futur remplaçant de l'assistant, parce que ça fait tout ce que l'assistant fait en mieux, sauf que c'est pas l'assistant, parce que c'est pas encore intégré à rien. Là, ce qu'on a présenté hier, c'est Bard en version évoluée, reposant sur Palm 2, qui va être offert, qui va être accessible dans 180 pays, donc ce sera plus un bêta fermé pour seulement quelques marchés. Bard va comprendre 40 langues, va pouvoir interagir dans 40 langues. Ça, c'est un petit peu plus que ce que c'était avant. Pour nous, c'est moins évident parce que déjà en français, il fonctionnait quand même dès le début. Je pense que je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est fonctionnel dans surtout en anglais. Et là, ce qu'on annonce, c'est des interfaces plus évoluées pour les gens qui veulent programmer à partir de ces outils-là, parce qu'on peut évidemment produire du code aussi, parce que Bard et Palm 2 peuvent vous aider à programmer, donc à créer des applications avec du code dans une vingtaine de langages de programmation. Peut donc créer du code, corriger du code, et ultimement, vous dire comment compiler tout ça et pour créer une application à l'autre bout. Donc, vraiment, ça devient un outil pour les programmeurs, entre autres, qui est très poussé. La dame qui est une des deux chercheuses en chef que j'ai rencontrée hier là, par rapport à ça me disait qu'elle, ce qu'elle voit comme outil du côté de Bard, c'est pas un remplaçant des développeurs ou des programmeurs, mais c'est vraiment un compagnon junior qui lui évite d'aller chercher dans la documentation le petit bout de code qu'elle veut ajouter, qu'elle se rappelle plus, que c'est quoi exactement. C'est comme si c'est, donc c'est comme un peu un manuel d'utilisation des langages de programmation qui est, de fond, qui est toujours la bonne réponse vite, plutôt que d'avoir à aller fouiller dans la documentation.
Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'il expliquait que le modèle d'intelligence artificielle a été entraîné sur des langages humains, mais aussi sur des langages de programmation. Et c'est pour ça qu'il a pu apprendre à parler ces langages-là. Exact. Et je trouve ça fantastique de se dire, ben oui, ça marche pour des langages humains, comprendre comment créer une phrase, comprendre une question. Ben, si tu mets la même analyse sur des langages de programmation, tu vas comprendre quel code va avec quoi, quelles règles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. C'est fait.
Mon cerveau naturellement, est explosé. Ça va rapprocher beaucoup les outils informatiques du, tu sais, de l'utilisateur moyen parce que, par exemple, je demandais à Bard il y a 3 jours juste pour le fun de me créer une petite application très simple pour aller chercher les nouveaux articles publiés sur un fil RSS pour ensuite créer une URL qu'on pouvait suivre, qu'on pouvait pister sur les réseaux sociaux et partager ça automatiquement sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Mastodon. En 3 secondes, elle m'a fourni le code. En 2 secondes de plus, parce que je l'ai relancé sur comment ensuite je peux convertir ça en application utilisable, elle m'a expliqué comment compiler ça sur mon ordinateur à travers un terminal. Et en genre 10 minutes, j'avais une application créée de toutes pièces par quelqu'un, moi, qui s'est aucunement programmé. Mais dans le, tu sais, vraiment fait personnaliser avec les indications de où installer la clé pour l'API, des choses comme ça. Et c'était assez intéressant parce que ça crée tout d'un coup une possibilité de toutes ces petites applications que les développeurs n'ont pas nécessairement ni le goût, ni le temps, ni l'intérêt de faire, mais qu'on aimerait avoir pour simplifier notre quotidien. Là, on voit tout d'un coup un accroissement de ces possibilités-là et on se dit, waouh, tout d'un coup, je pourrais automatiser des tâches au travail. Et individuellement, chacun d'entre nous pourrait trouver des façons d'être plus productif. Et là, vous le dites pas à votre patron, puis vous passez du temps de qualité à faire autre chose qu'à travailler 8 heures par jour.
Exactement.
Et vous avez, à la fin, le même résultat de travail. Donc, c'est quand même assez intéressant ce que ça permet comme potentiel pour les gens qui sont dans des tâches liées à de l'information, donc des tâches plus informatisées et tout ça. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un autre élément qui a été présenté hier, au-delà des fonctions, c'est que on pourra bientôt, dans Bard, soumettre des images au lieu du texte. Pour qu'elle nous explique, par exemple, c'est quoi l'image, ou à partir de l'image, nous donner de l'information additionnelle. Et inversement, elle pourra, elle aussi, nous répondre, ou lui aussi, je sais pas si c'est un gars ou une fille, Bard, finalement, mais pourra nous donner de l'information sous forme d'image. Ça va venir plus tard dans les prochains mois. Google s'est va utiliser un outil d'Adobe qui s'appelle Firefly.
Oui.
Pour faire la génération d'images, comme le fait Midjourney. Et là, on va pouvoir donc créer des images sur demande à partir de Bard, ce qui est amusant à la base, ce qui est inquiétant si on pousse un peu plus loin, mais ce que Google a dit, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais c'est aussi important, c'est que tout ce qui va être produit par l'intelligence artificielle de Google de cette façon-là va être identifié. On va pouvoir retracer l'origine de dire « Ah, ça a vraiment été créé par une intelligence artificielle ». Et ça se trouve que c'est l'intelligence artificielle de Google, donc c'est soit Palm 2, c'est soit Bard, c'est soit Duet, là, qui est l'outil pour les gens qui sont dans Google Cloud. Donc ça, c'est assez important parce qu'on voulait justement s'assurer de l'authenticité des choses et surtout que ça répond un peu à une des principales questions que se posaient les fameux chercheurs là, qui nous demandaient 6 mois de pause sur la recherche de pointe là, dans ces secteurs-là. Au moins, là, on va pouvoir dire, ben, s'il y a quelqu'un qui utilise ça à des fins malicieuses, on va pouvoir retracer la source et dire « Ah! »
filigrane. C'est ça qui est un filigrane dans les photos générées.
Watermark,
un filigrane dans les images générées par l'intelligence artificielle. Voilà, tu viens de régler 80... C'est sûr qu'il y a sûrement moyen de contourner, de cacher tout ça, mais pour la majorité des gens qui utilisent ça, ben, tu peux faire « OK, ça a été généré de telle façon par telle personne. » Ou tu peux peut-être ramener à la source de la génération puis immédiatement faire... Peut-être que les navigateurs web vont pouvoir tout de suite indiquer, mettre un petit code, un petit X, un petit quelque chose qui va te signaler que ça a été généré ou non. Ce qui va être le fun, par exemple, les articles de Wikipédia, tu vas avoir des vraies photos.
Non, ben exactement. Puis en fait, c'est bien que tu le mentionnes parce que Google, dans le moteur de recherche de Google, va pouvoir ou veut en tout cas arriver à un stade où elle pourra indiquer l'origine des photos, des images, du contenu pour être sûr qu'on fait la différence entre du contenu. Et là, il y a différents grades. Mais en haut, de dire, ben, ce contenu était généré par une intelligence artificielle, donc c'est pas nécessairement du vrai contenu. Dans le cas d'une image qui aurait été retouchée, des images qui seraient, donc des vraies images qui viennent de sources crédibles, des images qui sont qui peuvent être tirés de n'importe quoi. Ils vont aussi créer une nouvelle section pour le contenu qui provient de forums en ligne, comme Reddit, entre autres, où c'est du contenu qui est un peu ramassé de ce que les gens écrivent. Ils vont mettre ça à part des résultats de sites web ou de médias. Ils vont vraiment départager la nature des contenus pour justement rendre tout ça plus facile à comprendre et donner des niveaux d'utilité. C'est comme ça qu'ils le présentaient, des sources, des niveaux d'utilité selon les sources. Et pour tout ce qui va être créé à partir de l'intelligence artificielle, ça va être intéressant de savoir et ça va être important de savoir quand on tombe sur ce contenu créé.
Aider les gens à distinguer le vrai du faux, parce que ça peut être tout à fait légitime qu'on fasse une retouche sur une photo, enlever un élément distrayant ou quelque chose comme ça, mettre en valeur quelque chose. À un moment donné, quand on fait, par exemple, avec notre photo, si on ajoute des ballons à la photo, ben là, on a triché un petit peu. C'est pas nécessairement grave, mais ça reflète pas nécessairement la réalité. C'est toujours comme sur les boîtes de céréales, pouvoir indiquer ce produit n'est pas...
Présentation recommandée, ben oui.
Présentation suggérée, c'est ça. Exactement. Donc, si on peut savoir ça en regardant sa photo, ça va être beaucoup plus intéressant que de regarder la photo magnifique du coucher de soleil sur Paris, puis voir que tout a été refait numériquement, que ça n'a pas été fait avec une vraie photo qui représente le vrai Paris.
Évidemment, ça n'arrive pas à toute la question justement des intelligences artificielles qui sont créées et utilisées, qui ne seront pas identifiées, parce que là, on parle seulement de l'environnement Google. Ça va être offert, Palm 2, Bard, évidemment, va être accessible grand public. Palm 2, ça va en dessous des autres produits Google. Donc, dans les applications de Google, toute la suite Office, pas Office, mais Workspace, là, avec Docs, Sheets, tout ça, vont utiliser, même Gmail va utiliser Palm 2 pour la création automatisée de contenu, de courriels, de documents, textes, de tableaux, de classeurs, peu importe. Ça va vraiment propulser la création de contenu de façon assez intéressante dans les produits Google. Donc, les gens qui sont clients de Google déjà pour les suites bureautiques vont apprécier. Il y a aussi...
On s'entend que c'est une réponse à Copilot de Microsoft 365.
Exactement.
Microsoft
a des
solutions similaires pour intégrer la génération de courriels, de documents Word, de documents Excel et compagnie. Fait que là-dessus, j'étais pas étonné que Google annonce qu'il va utiliser l'intelligence artificielle de façon similaire.
C'est prévisible, évidemment, parce que, comme tu dis, Microsoft le faisait déjà aussi avec ChatGPT, ou en tout cas leur propre version de GPT-4, là, je sais plus exactement comment ils le présentent. Et il y a aussi, c'est ça, la partie peut-être plus intéressant pour les professionnels de programmation, il va y avoir des API. Donc, tout ce qui est offert sur Palm 2 va être accessible pour intégrer les outils de Google dans vos applications. Et c'est là où ça va jouer, parce que l'inquiétude chez Google, c'est que les gens utilisent leur propre petite intelligence artificielle autonome, chacun de son côté, qui n'est pas lié à leur modèle à eux. Et là, il y a un marché potentiel qui pourrait se perdre. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Il y a beaucoup d'informations aussi qui est liée à l'hébergement à Google Cloud. Donc, les gens qui sont qui ont leurs activités numériques hébergées par Google Cloud pourront utiliser de l'intelligence artificielle de Google sous une autre appellation qui s'appelle Duet, D-U-E-T. Là, il va y avoir des outils pour automatiser du contenu, du traitement de données, tout ça. On assure évidemment que la sécurité des données est assurée, l'anonymat des données collectées quand c'est des données clients, par exemple, d'une société bancaire où l'on parle de par exemple, Wendy's. Donc, les gens qui aiment manger des burgers chez Wendy's veulent peut-être pas être identifiés, mais en tout cas, ça va être anonymisé pour justement rendre des services automatisés plus complets. Il y a évidemment beaucoup de fluff et beaucoup de hype autour de ça, parce que les exemples qu'on donnait d'applications concrètes, c'est pas exactement de l'intelligence artificielle, là, de savoir que chez Wendy's, justement, on vend des milkshakes. Ça prend pas de très grands algorithmes, à mon avis, pour comprendre ça. Oui. Mais on imagine que ça va évoluer, que ça va donner des applications peut-être de plus en plus avancées au fil des prochains mois. C'est intéressant à suivre. Mais concrètement, pour le grand public, ce qu'on a vu hier, c'est vraiment des applications qui vont arriver dans les services. Je pense entre autres à l'application de messagerie de Google, où on va pouvoir commencer à préécrire des réponses, des choses comme ça, et même donner du style à nos réponses, parce que, et ça, c'est malheureusement seulement en anglais au début, mais il va avoir la possibilité de donner, de faire rimer, par exemple, nos réponses, nos messages, d'écrire sous le style d'un auteur anglais bien connu des années de Renaissance. Il voulait pas dire Shakespeare sur scène, mais c'était un peu ça. Et il y a beaucoup de façons comme ça qu'on va pouvoir utiliser. C'est peut-être plus ludique que vraiment productif. Mais il y a quand même un volet grand public à ça qui s'en vient. Donc, dans les prochains mois, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer, parce que c'est sûr que ça va changer notre façon au quotidien là, dont on fait certaines choses ou on communique, en tout cas, sur Internet et de façon mobile. Donc, ça va être à suivre. Et ça, c'est qu'un petit aperçu, parce qu'il y en avait du stock. Là. On a parlé même de sécurité à la fin des mots de passe, parce que ça aussi, c'est un autre truc là avec les passkeys. Oui. Avec l'alliance Fido, il était question de ça hier aussi à Google I.O. Il était question d'un paquet d'affaires qui sont extrêmement complexes. Donc, on va continuer de déballer ça au fil des prochains jours. Et s'il y a plus d'informations, évidemment, on pourra y revenir.
Moi, quand j'ai vu toutes ces annonces-là, je me disais en tant que chroniqueur techno, oh non, ça veut dire qu'à peu près chaque jour, je vais avoir à rafraîchir mes appareils, voir les mises à jour. La mise à jour, es-tu arrivé? Oui, elle est arrivée. Oui, elle est en français. Puis l'essayer, puis voir la version 1, la version... Ça va être une année assez folle côté Google, mais ça fait plein de petites nouveautés.
C'est un gros
On va peut-être effet. Pouvoir essayer sur nos nouveaux appareils Google, des produits physiques.
Monsieur. Exactement.
J'ai bien hâte.
On va closer. On va faire un petit peu ici la partie intelligence artificielle de notre balado axé spécial sur Google I.O. Je prends une petite pause parce que je vais rafraîchir mon café, mais on revient. On va parler de ces trois appareils-là, le Pixel 7a, que tu as en main, le Pixel Fold, que je n'ai pas en main, mais avec lequel j'ai joué hier, et la Pixel Tablette qu'on a vu tous les deux et qui s'en vient au Canada très bientôt. Restez avec nous, on revient tout de suite à une tasse de thé. Okay.
Recule un peu, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.
Des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et re-bienvenue à Une Tasse de Tech. On va parler des vraies affaires maintenant, Pascal, si tu permets, parce qu'on va parler de
les objets,
gadgets, d'appareils, de produits électroniques de haute qualité. Google se positionne quand même plutôt bien du côté du mobile. Ils ont fait beaucoup de progrès, même s'ils ne représentent que 3% du marché au Canada. C'est quand même le troisième plus gros joueur derrière Samsung qui prend, je pense, 25%, puis Apple qui en prend 60%, je ne sais plus trop.
Oui.
Mais c'est un gros des petits joueurs. C'est le plus gros des petits joueurs, je voudrais dire comme ça.
Et c'est un joueur qui travaille très fort. Les derniers Pixels sont de très, très, très bons appareils. Pour quelqu'un qui va avoir une expérience Android à jour, le fun, convivial et tout, ils sont beaux, ils sont sympathiques, ils marchent bien, les photos sont incroyables.
Oui.
Je pense que beaucoup de gens là, j'ai le fils d'une amie là qui était pro, qui était très 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 Apple, qui a essayé le Pixel puis qui a fait
voilà. Il manque évidemment l'adoption massive du standard RCS dans la messagerie pour que tout le monde puisse faire comme la messagerie d'Apple sur les téléphones Android. On va y arriver un jour. Encore hier, il y a eu une pique par rapport à Apple là-dessus. Parce qu'évidemment, ils se font tirer l'oreille. Puis c'est un jardin un jardin cloîtré d'Apple qui est très précieux pour les utilisateurs de produits Apple. Mais du côté Android, on a présenté des choses hier. Donc, trois appareils. Je vais commencer avec un des deux. En fait, les deux appareils qu'on n'a pas en main parce qu'ils sont pas encore en marché. On les a vus. Et le point en commun entre ces deux appareils-là, c'est que enfin Google semble vouloir prendre au sérieux le marché de la tablette et va faire des efforts pour qu'Android soit fonctionnel pour vrai en format grand écran. Parce que la version téléphone sur grand écran d'Android, ça n'a jamais marché. Si on se rappelle les tablettes Nexus à une autre époque et même toutes les tablettes d'autres fabricants, Samsung a travaillé fort, mais n'a jamais réussi vraiment à mettre le doigt sur le bobo là, par rapport à ça. Et là, il y a la nouvelle tablette, la Pixel tablette, et il y a aussi le téléphone pliable, le Pixel Fold, qui ont été présentés hier. Je vais tout de suite vous dire la mauvaise nouvelle à propos du Pixel Fold, c'est qu'on ne l'aura pas au Canada. Parce qu'on va le vendre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Angleterre, pas en Angleterre parce que c'est au Royaume-Uni, mais en Allemagne et au Japon, donc dans quatre marchés. Il va coûter 1 800 $ américains, c'est 2 400 $ canadiens, là où il va être vendu. Ouais, exactement. Belle réaction. Et ce que tout le monde se disait hier, c'est que Google étant Google, ils auraient pu le vendre moins cher encore, parce que là, c'est exactement le même prix que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Ils auraient pu le vendre 400 $ moins cher, et quand même qu'ils auraient perdu une couple de dollars, ils auraient vraiment comme pris d'assaut le marché. Moi, ma théorie, c'est qu'ils voulaient le vendre cher parce qu'ils veulent pas que la première génération soit trop populaire pour que la prochaine soit plus populaire, qu'elle soit vendue partout dans le monde et que les gens se l'achètent, et ainsi de suite. Donc, c'est une façon de contrôler aussi la vente de certains produits qui sont une première génération de quelque chose. On le dit souvent, je le disais toujours à propos d'Apple, on le disait à propos des voitures Ford aussi, je peux vous le dire, pour plein d'affaires. La première génération de nouveaux produits, souvent, est loin d'être parfaite. Donc, c'est intéressant parce que c'est nouveau, mais c'est mieux d'attendre quand on veut avoir un produit plus durable. Et peut-être que c'est le cas ici. Cela dit, le Pixel Fold, c'est un appareil super intéressant qui est très bien fait. Évidemment, il se déplie en deux pour s'ouvrir avec un écran comme de 7,6 pouces. Ouais, comme le Z Fold, d'ailleurs. Et la charnière semble vraiment très solide. on n'a pas l'impression que ça va casser rapidement. Ça a l'air quand même assez fiable. Et c'est assez protégé pour éviter justement s'il y a eu des problèmes les premières générations de Fold chez Samsung, oui, où il y avait de la poussière qui rentrait dans l'engrenage ou tout ça, puis mm-hmm. ça fait. Là, on a pris soin de s'assurer que ça n'arrivera pas. Il existe d'ailleurs des étuis pour cet appareil-là qui vont permettre de le protéger un peu plus. À la base, le téléphone, quand il est refermé, c'est un téléphone Android tout à fait normal de 5,8 pouces de diagonale, donc un petit peu plus petit que les téléphones à la mode de ces jours-ci, qui sont généralement au-dessus de 6 pouces de diagonale. Il fait 12 mm d'épaisseur refermé, donc pas vraiment plus qu'un téléphone normal. Quand on l'ouvre, ben, on divise en deux, il fait 6 mm, plus l'espèce de barre pour l'appareil photo là, qui le rend peut-être un petit peu plus épais. Mais c'est vraiment un des plus minces téléphones en son genre dans le marché. Je vais vous dire tout de suite, il vient avec 256 ou 512 gigaoctets de stockage, batterie de 24 heures, on permet donc une journée d'utilisation avant que la batterie lâche. Évidemment, la partie plus intéressante, c'est tout ce qui est apporté du côté applicatif pour rendre ce format-là utilisable. On a créé un mode où quand on regarde quelque chose sur l'écran fermé, ça se transfère automatiquement à l'écran, au grand écran intérieur quand on l'ouvre. Donc, si on regarde une vidéo sur YouTube, par exemple, sur le petit écran, on se dit, c'est un peu petit. Oups, on ouvre et là, pouf, automatiquement, ça se transfère sur le grand écran et ça continue de fonctionner. Et si on veut même aller plus loin, on se dit, tiens, j'ai une table, je pourrais déposer mon appareil. On peut le replier à moitié, donc à 90 degrés, le déposer et l'image se transfère automatiquement sur seulement la portion supérieure de l'écran. Et là, sur la portion inférieure, il y a d'autres informations qui apparaissent dépendamment de l'application dans laquelle on se trouve. Mais il y a vraiment ce format-là que Google appelle tabletop, qu'on pourrait appeler format porte, quasiment ordinateur bloc-notes, dans le fond, parce que c'est vraiment le format plié en deux là, d'un appareil qui est 100% tactile, mais quand même. Et on dit chez Google qu'il y a tous les produits Google ont été, toutes les applications Google ont été adaptées pour ce nouveau format-là. Et il y a une trentaine d'autres applications, Disney+, TikTok, Kobo, sa liseuse en version écran pliable. Donc, je ne sais pas si c'est comme un petit livre à ce moment-là aussi, ça s'affiche différemment. Minecraft, le jeu aussi, a été adapté pour ce genre d'écran-là. Il y a des éléments d'interface. On peut évidemment créer du multitâche. Tu as deux applications côte à côte. On peut faire du glisser-déposer, donc du drag and drop d'une application à l'autre. Et une petite application que j'ai trouvée intéressante à propos du Fold, c'est qu'on peut le replier donc à moitié, le déposer, partir l'application Google Traduction, traduire en direct une conversation qu'on a avec quelqu'un. Fait que si je parle français avec quelqu'un qui parle japonais, de mon côté de l'appareil, la traduction du japonais va s'afficher en français en direct. Et de l'autre côté, ce que je dis en français va s'afficher en japonais en direct aussi pour qu'on puisse se comprendre en direct de façon instantanée. Mmh. Ça, j'aimerais pouvoir l'essayer pour vrai. Donc, il faut que j'aille me faire un ami qui parle japonais. mais il faut aussi que je trouve un Fold parce que pour l'instant, on ne sait pas combien de gens vont l'acheter, mais on ne le verra pas chez nous de toute façon. Donc, ce serait strictement au niveau théorique que cette application-là pourrait venir. On dit que si l'appareil connaît un beau succès, il pourrait venir au Canada peut-être dans la prochaine année. Je ne sais pas combien à quel rythme il va être rafraîchi l'appareil, mais ça se peut qu'on le voit un jour au Canada. Donc, les gens qui veulent un appareil à écran pliable, croisez les doigts parce que c'est un des beaux téléphones dans ce genre-là. Il y a le Samsung, puis il y a Oppo aussi, la compagnie chinoise, qui en fait un. Et ils sont tous très bien, mais celui de Google semble mieux fini, un petit peu plus haut de gamme que les autres.
Bien de voir ça au Canada. Voilà. Ce qu'on va avoir au Canada...
On va avoir la Pixel Tablette.
La Exactement. Pixel Tablette que j'ai bien, bien hâte de voir parce qu'elle a quelque chose de particulier. J'ai trouvé ça bien astucieux quand on l'a présenté aux journalistes, en tout cas dans ma présentation. Mm-hmm. On a dit que les tablettes, trop souvent, on sait que j'ai vu plusieurs statistiques là, qui disaient que l'utilisation des tablettes diminuait. La plupart des gens...
Les ventes baissent
parce que ça dure longtemps. Puis mm-hmm. trop souvent, quand on veut l'utiliser, elle est plus chargée. Elle manque de charge. Et donc, ils ont créé une base qui va être vendue avec la tablette. Qui est inclus dans la boîte. Donc, ça vient avec. La tablette est un petit peu plus chère, mais il y a des haut-parleurs qui sont inclus, qui servent de base magnétique. Il semble qu'ils ont travaillé très, très fort. Je sais pas, tu as peut-être fait l'essai là, de décoller la tablette de la base. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en main, mais en posant la tablette sur la base, elle se colle sur un socle qui devient un haut-parleur. Donc, on peut diffuser de la musique, des messages, écouter ses vidéos plus fort. Ça positionne la tablette parfaitement pour des appels vidéo ou pour mm-hmm. la consultation d'informations. On peut voir sa domotique sur son écran d'accueil. Très, très chouette. Mais si on veut l'utiliser pour lire, regarder du contenu, on la détache. Paf! Elle est toujours chargée et je trouve ça super intéressant. Elle s'en vient au Canada bientôt, avec 699 incluant la base de recharge. On peut s'acheter la base de recharge tout seul et surtout un boîtier. Le boîtier, j'ai encore une fois peut-être essayé.
Une petite béquille, oui.
Une petite béquille derrière qui peut aussi servir à l'accrocher Sur le dossier de son siège d'avion, par exemple, j'ai une espèce de petit, en voiture, j'imagine l'accrocher, une petite charnière ici qui est 109 $, c'est pas donné. Je pense que ça va être un accessoire qui va être bien, bien apprécié.
C'est une belle offre. C'est sûr que la combinaison de tablette et socle en font un appareil qui, quand on s'en sert pas, on le laisse sur le comptoir ou dans l'étagère et ça devient un cadre photo connecté.
Voilà.
Ça ajoute l'information avec l'application Home, ou d'ailleurs, qui va être modifiée pour cadrer, dans le fond, dans cet appareil-là pour afficher de la météo, de l'actualité, des applications connectées de la maison. C'est un appareil qui, si les gens ont déjà touché un téléphone Pixel, vont reconnaître tout de suite l'interface parce que c'est le même genre d'interface, mais sur grand écran. On parle d'un écran de 11 pouces. Très lumineux, 4 millions de pixels, donc aucun problème de ce côté-là. Le socle est vraiment plus comme un caisson de grave qui s'ajoute aux 4 haut-parleurs de la tablette, donc qui ajoute vraiment une profondeur à la musique, entre autres, qui manque quand on n'utilise pas, parce que les haut-parleurs de base dans la tablette sont vraiment il manque un petit peu de richesse, disons-le comme
oomph.
Ça. De oomph, exactement. L'appareil est assez puissant, animé par les mêmes processeurs et coprocesseurs que les téléphones Pixel, donc le Tensor G2, fait maison chez Google, et le Titan M2, qui est le coprocesseur de sécurité, là, avec tout l'applicatif et la retouche d'image, tout ça. Déverrouillage par empreinte. Digital et ce qu'on dit, c'est que l'autonomie, quand on la recharge pas automatiquement, on a jusqu'à 12 heures de diffusion de vidéo en continu. Donc c'est une journée d'utilisation normale, on peut dire comme ça. Il y a deux choses. Évidemment, on revient avec les mêmes applications optimisées pour grand écran que le Pixel Fold a. Il y a Google Meet qui a été évidemment revu pour être optimisé pour la tablette, parce que justement, on veut utiliser des applications d'appel vidéo avec ça, c'est assez naturel. Et plutôt que d'avoir un clavier à l'écran qui serait incroyable, on a dit, on a créé vraiment une fonction de traduction du texte à l'oral vers l'écrit. Donc, un assistant vocal qui, dit-on, va 3 fois plus vite qu'un clavier et très précis en français, en anglais, dans la langue de son choix. Donc, ça va être intéressant de l'essayer au quotidien. Est-ce que vraiment répondre à un message texte vocalement va bien aller? Ce qui est intéressant, et je veux dire ceci à propos de cet assistant vocal de Google là, c'est que automatiquement il reconnaît les différentes voix, donc il peut dire ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est un autre. Il fait la ponctuation aussi et même le saut de ligne automatiquement selon la pause quand on parle. Et ça c'est vraiment bien parce que quand on dicte du texte ou un message texte, tu sais, de dire la phrase point, espace, espace, virgule, ça vient rapidement très agaçant. Là, si on peut le faire automatiquement, écrire vraiment du bon texte. Ça va être intéressant de suivre ça, effectivement. J'ai hâte de voir évidemment, l'appareil va arriver quelque part en juin au Canada. On va pouvoir en reparler puisqu'on va le revoir. On va l'avoir en essai dans les prochaines semaines. Et on reviendra en détail avec ce que ça représente. Mais pour le prix, l'offre est intéressante. Reste à voir, effectivement, si le marché de la tablette est prêt à accueillir un nouveau joueur parce que le marché est saturé depuis quelques années.
Ben, c'est ça.
Et Android pour tablette a besoin de faire ses preuves parce qu'effectivement, jusqu'à date, c'était pas évident. Puis c'est un autre créneau que l'iPad qui se présente comme un outil de plus en plus d'un remplacement de PC ou d'ordinateur personnel avec le stylet et tout le kit. À suivre. On va en reparler de toute façon. Celui qu'on a dans les mains déjà et qui existe déjà, et tu l'as toi-même, moi le mien, je l'ai oublié à la maison parce que j'ai pu traîner mon Pixel 7 Pro. C'est le Pixel 7A qui est nécessairement une version allégée et plus abordable du Pixel 7.
Exactement, 6.1 pouces de diagonale versus 6.7, donc légèrement plus petit que le Pixel 7 Pro, qui est mon téléphone du moment, toi aussi je crois. Le téléphone est très joli, très similaire, avec la jolie petite bande derrière, que je trouve très très intéressante. Quand on pose le téléphone sur une surface, on ne bousille pas les caméras, la petite bosse est... Et ça garde le téléphone à un petit angle. J'adore ça. Il paraît que ce serait le plus solide des téléphones 7, des téléphones A de Google.
Ah, ben oui.
Ils ont refait le boîtier et tout. Qu'est-ce que j'ai pris comme note? Il va être offert le plus durable, donc amélioration de l'architecture à l'intérieur, le cadre du téléphone, le squelette du téléphone. Il va être offert en 4 couleurs, charbon, neige, mer et corail.
Ouais.
La version corail va être uniquement vendue en ligne.
Noir, blanc, bleu et rouge.
Et rouge, grosso modo. l'écran rafraîchissement 90 Hz, qui est pas mal pour un téléphone de moyenne gamme, disons-le comme ça. 128 GB de stockage, 8 GB de mémoire vive. Déverrouillage facial et empreinte, très, très facile. Ceux qui se demandent tout petit point pour la reconnaissance faciale. Recharge par induction sans fil. Toutes les caméras permettent de filmer en 4K, 30 images par seconde. Il y a deux caméras derrière, donc une large et une ultra large, et un super zoom qui peut aller jusqu'à 8 fois. Alors, j'ai bien hâte de voir.
C'est numérique en même temps, oui.
C'est ça, numérique. Donc, ça va zoomer dans les pixels, mais grâce à la magie de l'intelligence artificielle. Et évidemment, on va avoir droit à toutes les mises à jour, feature drop des téléphones pixels. Il est en vente dès maintenant. Ceux qui sont curieux, on peut se le procurer dès maintenant, en faire l'essai en boutique. Il est $599.
Ouais, ça, c'est avec rien, mais les fournisseurs et même Google font des offres spéciales régulièrement. D'ailleurs, c'est une conversation que j'avais avec des collègues ici, c'est que déjà, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont souvent liquidés par les fournisseurs. À un prix qui les amène à peu près $50 de différence au final là, par rapport au Pixel 7A. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça vaut la peine d'acheter un 7A quand on peut avoir un 7 ou un 7 Pro pour $50 de plus, qui revient à quelques 2$ par mois quand on l'étale sur un an ou deux.
Plus de caméras, plus de performance. Mais c'est le même processeur?
Exact, même processeur, presque la même caméra en fait. Et dans l'ensemble, c'est la même interface. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Ce qui est une grosse différence pour les gens qui veulent voir ces détails-là, c'est que l'écran est moins. On a le petit cadre noir autour de l'écran qui rend l'expérience moins enveloppante que sur le Pixel 7, ou alors l'affichage déborde un peu de la surface.
Je trouve ça très subtil entre toi et moi.
Mais effectivement.
Mais sinon, je les regarde les deux côte à côte, là, et puis regardent sur YouTube, c'est très, très subtil.
C'est les détails. Évidemment, le taux de rafraîchissement 90 Hz, c'est moins élevé que le 120 Hz des autres, mais ça fait au quotidien, ça fait pas une si grosse différence. À moins d'être vraiment, tu sais, d'être un joueur là, pour qui ça fait toute la différence du monde, on verra pas grand-chose passer. Recharge sans fil, recharge par induction, donc tout est là, effectivement.
Oui, merci.
Et ce sont surtout les applications logicielles, les outils logiciels inclus dans la version pour Pixel d'Android qui valent la peine. Et celles-là, ben, sont partout sur la gamme Pixel. Donc, soit on achète le 7A, soit on achète un 7 court en spécial, pas bien plus cher, ou soit on attend encore 3 mois, puis on va voir le 8 arriver qui aurait peut-être être meilleur encore, on le sait pas.
On touche du bois, mais c'est fou que temps. Le 8 s'en vient déjà. Parce que le 8 va être, selon moi, une belle amélioration. Selon moi, ils vont, j'espère, annoncer des innovations le plus concrètes avec Android 14, si je ne m'abuse.
Ça devrait être, en même temps, quelque part cet automne, effectivement. Mais avec le Fold et la tablette qui sont lancées en début d'été, en tout cas en fin de printemps, ça fait une année chargée. Parce que là, tout d'un coup, on a une gamme d'appareils plus large. On a 4 différents formats. Et là, on va savoir qu'est-ce qui va être renouvelé quand, parce que là, ça va être un cycle annuel où tout va être renouvelé n'importe comment, alors qu'on aurait pu tous relancer ça à l'automne puis arriver au même moment avec les mêmes produits, ou en tout cas les nouvelles générations lancées en même temps. Je ne sais pas à quel point le cycle d'achat des téléphones conditionne cette stratégie-là chez Google, mais je pense qu'on voulait à l'origine créer le 7A ou le 6A, ou en tout cas la série A, pour profiter du creux dans le marché de fin de printemps, début d'été, où il n'y a rien qui se lance. Donc, de juste faire parler de l'appareil de Google, c'était un intérêt. Ben oui. Là, la rumeur, c'est que le 7A serait le dernier de la série A. Il n'y aurait pas de 8A, il n'y aurait pas d'autres A dans les prochaines années. Oh. Ça, c'est la rumeur. Donc, à suivre. Mais effectivement, pour le prix, surtout quand on l'amortit et qu'on l'utilise, si on peut l'avoir en rabais ou en spécial, c'est un téléphone qui est vraiment, dans son créneau, dans le bas de gamme, c'est un des bons appareils.
Ben c'est, puis tu dis bas de gamme, moi je dirais moyenne gamme.
Ben moyenne gamme,
c'est pas gênant à utiliser. Mm-hmm. T'as le même processeur, il est un petit peu plus petit, ce que beaucoup de gens vont apprécier. T'as une expérience assez extraordinaire. La seule chose, est-ce que tu veux seulement 2 caméras au lieu de 3? Encore une fois, pour la plupart des gens, ça fera pas une belle. Mais moi, si j'avais à offrir un téléphone simple d'utilisation à quelqu'un qui est pas nécessairement un super geek.
Un cadeau pour la fête des mères, par exemple.
Un beau, beau cadeau pour la fête des mères.
Je veux dire ceci, pour conclure là-dessus, c'est que lui, il est $600. La tablette est $800, je pense, c'est la Pixel tablette. Donc, les deux ensemble, c'est $1400. C'est beaucoup moins cher que d'acheter un Pixel Phone, qui, en théorie, est à la fois une tablette et un téléphone, qui revient à $2400. Donc, vous pouvez acheter 2 appareils pour moins cher que le prix d'un appareil. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant, parce que vous avez vraiment l'écosystème de gadgets de Google. Et peut-être, parce qu'ils le font aux États-Unis, mais peut-être qu'ils vont le faire au Canada aussi. Si vous achetez un appareil Pixel en ce moment, ils donnent une Pixel Watch gratuitement. Donc, les gens qui veulent une montre connectée, c'est peut-être pas la meilleure des montres, mais elle est quand même très jolie et elle fait la job, disons-le comme ça.
Pour une première génération, c'est assez réussi.
Donc, à suivre de ce côté-là. Mais vraiment, conseil, si vous magasinez un appareil, suivez les spéciaux, parce que c'est le meilleur moyen d'acheter Souvent, c'est inclus dans un forfait de 2 ans, par exemple, des choses comme ça. Et ça vaut la peine de faire suivi. Ouh, ça fait le tour de Google I.O., ça, je pense, hein, Pascal?
Mais je pense que oui. Écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter, ça nous fait plaisir. Alain, on peut te suivre ça dans Le Devoir, sur le web, sur Internet. On peut me suivre sur pascalforgette.com. On va remercier nos partenaires, Plan Hub, TELUS, Jura. Mm-hmm. J'ai hâte de me refaire un autre café. Il faut que j'arrête. Je suis rendu à du 2/3 décaféiné, 1/3 caféiné.
Ah oui.
Je me sens moins coupable de prendre un café de plus dans la journée. C23, le groupe Cogeco qui diffuse le podcast. Merci beaucoup. Claude Hébert, la mise en onde. Alain, bon Pascal, retour, bon merci. Vol de retour. J'ai hâte que tu nous donnes des potins. Est-ce que je peux dire qui tu rencontres cet après-midi?
Tu peux, parce que en théorie, on va l'avoir déjà rencontré quand on va diffuser, donc oui, vas-y.
Exactement.
Je te laisse.
Sundar Pichai, j'étais pas loin.
Monsieur Pichai, ben oui, qui a besoin de présenter la stratégie à le plus long terme de Google. On va parler des vraies affaires.
Par exemple, la main de ma part.
Exactement. Pourquoi le jaune dans le Google, dans le logo Google, et non pas juste du blanc, du vert et du rouge? C'est ça que je me demande. C'est pas vrai, je vais demander plein d'autres affaires. Mais oui, je parle à M. Pichard, il va y avoir des articles à lire dans Le Devoir. Je ne serais trop recommandé de venir lire ce qu'on fait dans Le Devoir, c'est excellent. Mais sinon, on va reparler ici à une tasse de thé dans les prochaines semaines, donc ne manquez pas ça. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à notre balado pour voir nos 7 saisons précédentes, mais aussi pour ne pas manquer ce qui s'en vient, parce que les prochaines semaines vont être très excitantes. Nous aussi, là, il faut que j'aille déjeuner, parce qu'il est tôt ici en ce moment en Californie. Et puis, pour le reste d'entre vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde!
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.